Bon, je pense que par rapport à Atlantique, beaucoup plus facile en tout cas à appréhender pour les jeunes. Ce qui ne veut pas dire que c'est mieux ou qu'il faut forcément le choisir plus, mais je pense que voilà, revenir dessus, ça paraît un peu plus simple. Et en même temps, on peut travailler sur les deux, tout à fait. Peut-être en montrer un avant qui va être plus facile d'accès, puis une fois qu'ils ont pris goût à l'idée de revenir sur un film, leur en montrer un plus exigeant. Je ne sais pas, c'est des suggestions, vous faites comme vous voulez. Mais je pense qu'au moins, il est beaucoup plus facile d'accès pour les jeunes. Ce qui ne veut pas dire qu'il est moins intéressant et qu'il n'y a pas de mise en scène et qu'il n'y a pas plein de choses intéressantes à en dégager. Raison pour laquelle je suis là. Même si je sais que j'ai compris que quand même ça analysait pas mal de votre côté, donc on va croiser nos ressentis. Ouais, moi je pense que la meilleure façon de le présenter, c'est un peu comme ça que j'ai fait hier. Il y a deux façons de le présenter assez simples, comme ça on va aussi évacuer ces aspects-là. C'est par son réalisateur, bien sûr, Sidney Lumet, mais aussi par son acteur qui joue le protagoniste. Alors vous n'êtes pas obligé de connaître la légende, mais c'est une légende quand même du cinéma contemporain, c'est River Phoenix. Alors je vais commencer par Sidney Lumet. Vous allez voir que c'est intéressant après pour le film. Sidney Lumet, c'est quelqu'un d'assez insaisissable comme réalisateur. C'est un nom qui est très connu. Je pense que ne serait-ce que vous n'êtes pas obligé d'être un grand cinéphile pour avoir déjà entendu le nom de Sidney Lumet, parce que c'est quelqu'un qui s'est fait connaître avec son tout premier film, puisque c'est les 12 hommes en colère. Henri Fonda, film de procès, enfin film de délibération plutôt, film huis clos, qui d'un coup le propulse et en fait un des plus grands réalisateurs tout simplement de sa génération, à savoir fin des années 50, années 60, 70, 80, et qui finit sa carrière au début des années 90. Donc là, on est en fin de carrière pour Sidney Lumet. Et ce qui est assez amusant, c'est que Sidney Lumet, il aura vraiment traversé beaucoup de genres différents. Et c'est un réalisateur qui ne va pas vraiment être associé à des générations ou qui ne va pas vraiment être associé à des époques. C'est un peu quelqu'un qui traverse en solitaire, comme ça, en électron libre, le cinéma de différentes décennies, mais qui est quand même rattaché quand même au cœur du moment où il a exercé, à savoir les années 60-70. Et comme vous le savez, les années 60-70 dans le cinéma américain, c'est quand même une période particulière, particulièrement dorée, où en fait les réalisateurs n'étaient pas seulement sous contrat pour des studios comme dans l'âge d'or, où on leur soumettait des projets à faire et puis c'était un peu presque des techniciens, quoi. Là, ça devenait des réalisateurs auteurs à qui on confiait des gros projets, des gros budgets. Bref, ça a été un âge d'or très important. Vous le connaissez, ça s'appelle ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood, ce qu'on a appelé aussi quelque chose qui s'inscrivait dans la contre-culture, en réaction très souvent à la guerre du Vietnam, notamment dans ce qui se passait dans les films. Et puis Sidney Lumet, ce n'est pas forcément un nom qu'on associe à cette période, et pourtant il en est. Vous savez, les grands noms qu'on associe à cette période, donc la fin des années 60, tout début des années 80, c'est plutôt les Coppola, les Scorsese, les Brian De Palma, les Spielberg, toute cette jeune génération de cinéastes qui arrive. Lui est un peu plus âgé, quand même, mais il en fait partie. Et quand je dis qu'il en fait partie, c'est qu'il a signé des grandes satires, comme par exemple Network, en 75, sur la télévision, qui est une des principales satires de la télé, qui a très bien marché à l'époque. Et puis d'autres films qui sont associés à cette époque du Nouvel Hollywood. Et donc Sidney Lumet, une fois encore un peu en électron libre, appartient quand même à cette période. Pourquoi c'est intéressant pour notre histoire ? Parce que ce film, a priori, ne ressemble pas trop à un film du Nouvel Hollywood. On est sur une chronique familiale, un drame familial, un teen movie, quelque chose dont on a l'impression un peu de reconnaître. On a l'impression qu'on a des repères par rapport à ce film. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez beau. C'est que quelque part, ce van, vous savez, cette famille qui est en transit constant, qui est en fugue, c'est un peu ce qui reste des années 70 dans le cinéma américain des années 80. Les années 80, en fait, c'est un grand retour à l'ordre dans le cinéma des années 80, de cinéma américain et hollywoodien. C'est ce qu'on a appelé la décennie Reagan, la décennie où les studios, en fait, ont repris. Il y a eu une mainmise des studios sur on va arrêter un petit peu avec les auteurs, cinéastes, réalisateurs. C'est nous qui impulsons les projets et il y a une espèce de retour de feu du film d'action, de grands genres porteurs autour d'acteurs et le retour du genre, tout simplement. Et donc, les cinéastes de la Sidney Lumet n'ont plus que des strapontins dans cette industrie-là. Et ce film-là, ce qui se passe dans cette famille-là, mine de rien, vous l'avez compris, c'est un peu des contestataires des années 70. C'est un peu quelque part ce qui reste du Nouvel Hollywood. On pourrait se dire, c'est un peu ce qui reste de l'utopie de ce cinéma qui était confié à des regards assez frontaux et crus sur la société américaine. Bon, c'est une façon d'entrer dans le film. Je termine sur Sidney Lumet. C'est quelqu'un qui a connu une enfance assez particulière puisqu'il était un peu un enfant de la balle. Il était un peu un enfant d'artiste. Ses parents étaient des dramaturges et des acteurs du théâtre yiddish, qui était principalement un théâtre communautaire, donc de la communauté juive de la côte Est, principalement même de Brooklyn. Mais donc, même si c'était assez localisé à Brooklyn, quelques coins autour de Philadelphie, Boston, tout ça, c'était quand même une vie en transit et c'était quand même une vie d'artiste. Donc quelque part, c'était une vie qui ressemblait un petit peu à cette espèce de fugue éternelle, de vie sur les routes, qui est celle de cette famille que vous venez de découvrir. L'autre porte d'entrée, évidemment, et vous devez n'hésitez surtout pas à y aller, parce qu'après tout, ça va passionner les jeunes, c'est l'acteur, c'est River Phoenix. Alors River Phoenix, c'est assez fascinant, parce que ce que je vous explique de la vie de Sidney Lumet, bah, en fait, ça a aussi été la vie de River Phoenix. C'est quelque chose qu'on ne sait pas trop, mais River Phoenix, c'est une famille... Il a lui aussi vécu sur les routes. En fait, sa famille, son père et sa mère, étaient carrément embarqués dans une secte. Ils ont été jusqu'en Amérique du Sud. Ils ont élevé leurs enfants totalement à l'écart de la société occidentale. Ils en sont revenus. Ils sont arrivés ensuite à Los Angeles. Et River Phoenix, qui était l'aîné de cette famille, qui n'a donc pas connu de scolarité... je vous parle de l'acteur. Donc, il n'a pas connu de scolarité normale. Il n'a pas été inscrit à l'école primaire américaine et tout ça. Est arrivé et puis il est revenu de cette enfance un peu sur les routes avec un désir très très fort d'être musicien. Musicien plutôt de rock. Donc là encore, ça croise un petit peu l'histoire de son personnage. Et en fait, il s'est retrouvé par un concours de circonstances. Il a passé des castings, il a été repéré aussi, à devenir acteur, à faire l'acteur très très tôt. Donc là, quand vous le voyez là, il a déjà quelques films à son actif. Il a été repéré dans un film de Joe Dante qui s'appelle Explorers, quand il était tout jeune. Après, il a fait un film très proche de celui-là qui s'appelle Mosquito Coast, de Peter Weir, où c'est déjà un père aussi qui embarque sa famille, donc ça faisait aussi écho un petit peu à sa vie. Et chose que vous n'êtes pas obligé de savoir, mais qui est quand même assez connue, il a aussi un petit frère derrière qui a fait acteur, puisque c'est Joaquin Phoenix. Donc, tout ça pour vous dire que, mine de rien, ces espèces de... éducation hyper marginale, voire même carrément à deux doigts d'être sectaire, les vies d'artistes comme ça, un peu les vies de cigales, hein, dans la fable de la fontaine de la cigale et la fourmi, on crée des petits artistes. Et on crée des petits artistes qui, quelque part, se racontent. River Phoenix, on peut très bien faire le parallèle entre sa vie à lui et ce qu'il est en train de ce que son personnage est en train de vivre. Et alors, deuxième dimension très vertigineuse, évidemment, ce film ne cesse de dialoguer avec une grande référence du cinéma américain, du teen movie, que vous avez identifié, j'imagine, puisqu'elle est citée. Avec qui dialogue ce film ? Avec quelle figure et avec quel film il dialogue ? Teen movie, adolescent en crise existentielle, iconique ? Non. Bah oui, James Dean. Il est même, vous l'avez remarqué, je pense, dans le fond du placard, dans une scène à un moment. Je vous le montrerai. Bah, on verra de quelle manière il dialogue avec James Dean, mais ce qui est assez troublant et vertigineux, et ça... ça relève presque de l'anecdote, mais dites-le quand même à vos élèves, parce que c'est quand même assez fascinant. James Dean, vous le savez, il meurt à 24 ans dans un accident de voiture, après avoir connu deux films qui l'ont propulsé tout de suite, icône des jeunes, dans les années 50. En fait, River Phoenix, il a exactement la même vie. River Phoenix, il meurt à 23 ans d'une overdose, à un concert de rock, parce qu'en parallèle de sa carrière, il a continué sa carrière de musicien. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il appartient à une génération qui a été révélée par le teen movie. Là, vous êtes un peu dans un teen movie, mais on reviendra tout à l'heure sur le genre. On reviendra à quel point, on verra à quel point celui-là joue avec les genres. Mais en fait, il a très très vite été comparé à James Dean, River Phoenix. Et en fait, il meurt d'une overdose à un concert donné dans une boîte que tient Johnny Depp, qui lui aussi a toujours voulu être un musicien. Et ce qui est amusant, c'est que cette génération de jeunes acteurs qui ont été révélés dans le teen movie, ils voulaient tous être musiciens. Ils voulaient tous être le seul qui va y arriver en fait de leur génération. C'est marrant, c'est drôle parce qu'ils lui ressemblent presque physiquement. C'est Kurt Cobain, quoi. Ils auraient tous voulu devenir Kurt Cobain, mais le cinéma les a récupérés parce que pourquoi le cinéma les récupère ? D'ailleurs, je vais vous montrer ça. C'est ce que j'ai montré à vos collègues hier. C'est assez fascinant, c'est qu'en fait, les années 80 dit retour de genre, mais donc dit retour d'un public qu'on va draguer. Et en fait, pour draguer ce public, on va lui faire des films spécialement pour lui. Et c'est le grand retour du teen movie, qui est né dans les années 50. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Mais en gros, qui dit teen movie dit besoin de visage pour incarner ces teens. Et donc, c'est assez étonnant, mais tous les acteurs de la génération de River Phoenix, qui est plutôt parmi les plus jeunes, mais tous les acteurs de la génération de River Phoenix, en fait, on les connaît tous depuis 40 ans parce qu'ils ont été révélés dans les années 80. Tom Cruise, qui est dans Mission Impossible, si vous le connaissez depuis le début des années 80, c'est parce qu'il y avait du teen movie. Il fallait des jeunes de 20 ans pour jouer dedans. Et je vais vous montrer, il n'y a pas que Tom Cruise, vous allez voir. Je vais vous montrer un petit... Alors DiCaprio, on va y revenir. Johnny Depp, c'est 21 Jump Street, une série de teen où un jeune flic est tellement jeune et tellement juvénile qu'il est infiltré dans un lycée. Robert Downey Jr., il est révélé par les films de John Hughes. Il était plutôt acteur secondaire, mais il est révélé par le teen movie. Sean Penn, on l'oublie, hein, mais Sean Penn a joué dans du dumb teen movie, du dumb college movie. Il jouait un personnage d'idiot, Sean Penn. Et Tom Cruise dans Risky Business, qui est évidemment celui qui va connaître la trajectoire la plus fulgurante, parce qu'après, il est récupéré par Top Gun. Mais tous ces acteurs-là, si vous les connaissez à 20 ans, c'est parce que le teen movie, c'est parce qu'on a besoin de jeunes gueules. Ce qui n'est pas du tout la trajectoire des acteurs classiques. Hein. Les acteurs classiques, ils sont plutôt révélés autour de la trentaine, parce qu'il faut le temps d'être révélé. Les rôles ne sont pas forcément adaptés pour un public jeune. Le teen movie naît dans les années 50. Avant, dans les années 40, 30, l'âge d'or hollywoodien, vous n'avez pas de films spécifiquement conçus pour les teenagers. Donc, en fait, vous n'aviez pas des carrières d'acteurs qui commençaient aussitôt. Et River Phoenix s'explique par ça aussi. Et le film s'explique par ça aussi. Si River Phoenix et le film existent, c'est parce que James Dean et La Fureur de Vivre, pour ne pas citer le grand film, existe. Et donc le film va entretenir un dialogue avec toute cette histoire-là. Il va entretenir un dialogue avec... Bah d'ailleurs, on peut partir par là. Je ne sais pas trop ce que j'ai montré hier, mais on peut se dire aussi, regardez, qu'il va entretenir un dialogue avec ses origines. Les années 50. Et les origines d'une imagerie, bien sûr. Et cette imagerie, c'est quoi d'ailleurs ? Ça, c'est dans l'ordre chronologique. 53-54, vous avez l'apparition de Marlon Brando avec les films d'Elia Kazan. D'accord ? Qui n'est pas un teen. Il est plutôt plus âgé. Hein. Sauf qu'il va devenir quand même une référence et une icône avec L'Équipée Sauvage en 54. De quoi ? D'une certaine jeunesse. Mais d'une jeunesse comment, là ? Je vous ai fait un raccord perfecto, là. Rebelle ! Bad boy, bien sûr. Le rebelle, le bad boy, c'est les années 50 qui inventent cette figure. Hein. Alors, de manière un peu accidentelle, des films qui vont être assez ambigus, qui vont être assez... En fait, qualifié de contre-culturel et contestataire avec le recul, mais très vite, l'industrie se prend le pli et se dit « Bah oui, mais attendez, si ça plaît, c'est qu'il y a peut-être un public, en fait. C'est qu'il y a peut-être un nouveau public à aller chercher. Donc, on va leur faire des films. » Alors, le moment où on fait des films pour le jeune public adolescent, c'est plutôt ce moment-là, Elvis Presley, qui, en fait, va donner voix à travers le rock'n'roll à cette nouvelle jeunesse, cette nouvelle génération, plutôt contre le modèle de l'American Way of Life, un peu plan-plan, famille, maison, nanana. Et toute cette génération-là, va inventer tout simplement des produits culturels qui n'existaient pas, avec ses accessoires, hein, le perfecto, la coupe, les motos, évidemment une musique, le rock'n'roll, toute une culture, et aussi des destins tragiques, bien sûr, des destins tragiques. James Dean, autre destin tragique, Elvis Presley, qui en fait avait pour modèle ces deux-là, aurait voulu connaître une carrière de grand rebelle au cinéma, sauf que lui, qu'est-ce qui va se passer ? On va le mettre dans des beach teen movies, pour vraiment complètement consensuels, hyper gnangnants et sentimentaux, des trucs guimauves, quoi, qui vont complètement abîmer son image, finir par abîmer son image de rebelle et de rocker. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, si on compare River Phoenix à James Dean, ça n'est pas pour rien. C'est parce que le film dialogue aussi avec tout ça. Et pour vous montrer ça, je vais vous relancer l'ouverture du film. Et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, l'ouverture du film, elle brouille vos repères. Moi, je suis sûr que ceux qui n'avaient pas vu le film, donc j'imagine qu'il y en a dans la salle quand même, ceux qui n'avaient pas vu le film, le tout début est un peu perturbant. On ne sait pas trop où on est, en fait. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Parce qu'évidemment, c'est fait exprès. Hein. Il faut 10-15 minutes, quand on se retrouve dans le motel et qu'on comprend vraiment, il y a une vraie exposition de qui sont ces gens. Ah, d'accord, qu'on comprend ce qui se passait au tout début avec ce jeune qui part d'un terrain de baseball et qui finit par alerter par une voix. On ne comprend rien, en fait. Mais je vais vous remontrer ça. Et je vais vous montrer pourquoi on ne comprend pas. C'est parce qu'en fait, le film, là, pour le coup, joue vraiment avec une imagerie de cinéma et des codes. Des codes autour du genre. En fait, vous allez voir au moins trois genres de fiction différentes dans les quatre premières minutes. Je vous montre les quatre premières minutes et essayez de partir de cette idée qu'il y a trois cinémas différents, trois genres différents. Et d'ailleurs, il y a même un qui n'est pas du cinéma, qui est plutôt de la série. Je vous montre ça. Et c'est ça qui brouille, en fait. C'est ça qui est perturbant. Oui, juste en même temps que je revoyais, j'ai oublié que la petite histoire autour de River Phoenix, je termine là-dessus pour l'anecdote. Quelqu'un a dit tout à l'heure Leonardo DiCaprio. En fait, non. Mais alors, il y a une histoire avec Leonardo DiCaprio qui peut être intéressante pour raccrocher vos élèves à qui est River Phoenix. C'est qu'en fait, River Phoenix, Leonardo DiCaprio prend le relais quand River Phoenix décède. River Phoenix fait My Own Private Idaho de Gus Van Sant. C'est vraiment là sa révélation. Pour ce rôle-là, il est nommé à l'Oscar. Donc, c'est bon, l'industrie l'a épinglé. C'est bon. Il a une carrière qui est lancée. Il fait son overdose. Et en fait, juste au moment où il fait son overdose, il devait tourner dans un film qui s'appelait Rimbaud-Verlaine, donc dans le rôle de Rimbaud. Et celui qui va finalement reprendre le rôle de Rimbaud, c'est Leonardo DiCaprio. En gros, quelque part, on peut très clairement dire, sans exagérer, qu'il aurait eu une carrière à la Leonardo DiCaprio. Donc, c'est assez vertigineux quand même. Hein. Et pourquoi cette ouverture est très intéressante ? Je vais vous le remontrer avec des captures qui vous résument très bien ce que je vous demandais d'identifier. C'est qu'en fait, si c'est un peu perturbant, c'est parce qu'en fait, elle joue à vous perturber, cette ouverture. En fait, elle joue à vous perturber parce qu'elle vient de traverser au moins trois décors de fiction différents. Et de vous montrer, en fait, même qu'elle... Il y avait une phase de transition entre ces décors de fiction différents. D'abord, vous arrivez dans là-haut, en haut à gauche. Hein, c'est vraiment le tout début du film. C'est presque une minute pour un décor différent. Là, il y a eu 4 minutes de film que je vous ai montré depuis tout à l'heure. Une minute là, une minute là, une minute dans la transition et une minute là. Et bien, là-haut, on est clairement dans l'imagerie, dans le cliché du teen movie. Cliché du teen movie, c'est-à-dire une scène de baseball, une scène de lycée, des choses que vous avez déjà vues. Pourquoi vous les avez déjà vues? Pas forcément parce que vous avez absorbé énormément de teen movie, même si je pense que c'est le cas, mais parce qu'on oublie que le teen movie, ce n'est pas que du cinéma, c'est aussi de la série, par exemple. Et dans la série, il y a un univers qui est très important dans la culture américaine et auquel se réfèrent toutes les fictions à chaque fois quand ça parle de famille et quand ça parle de bonheur à l'américaine, c'est la sitcom. La sitcom, en France, on en a une vision très, très... On ne se rend pas compte de l'influence de la sitcom, mais c'est la fiction la plus, en quantité, la plus consommée aux États-Unis. C'est celle qui est la plus produite et c'est celle qui a fait les plus grands records d'audience. La sitcom, qu'est-ce que c'est? La sitcom, vous savez, c'est ce genre de petite série d'épisodes de 20 minutes qui arrive dans les années 50 où vous avez des rires enregistrés. Et la plupart du temps, avec des personnages qui sont toujours dans les mêmes situations, toujours dans la même maison, le même appartement, si c'est Friends, par exemple, c'est une sitcom. Ma sorcière bien-aimée, tout ça, ce sont des sitcoms qui, à chaque fois, se modernisent légèrement en fonction des décennies. Ma sorcière bien-aimée, années 60, années 50, c'était plus vraiment la famille traditionnelle, classe moyenne américaine, avec les titres des sitcoms de l'époque, c'est genre « Papa a raison hein ». Donc c'est très paternaliste, oui. La sitcom a une fonction même... Alors, pour vous raconter ça, c'est très important parce qu'en fait, le deuxième décor, c'est un décor de sitcom. Celui-là, là, à droite, tout là-haut, c'est un décor de sitcom. La sitcom, c'est toujours l'idée qu'en fait, c'est inventer une fiction qui devient la vitrine d'un mode de vie, l'American Way of Life, qui est en fait un mode de vie dont la publicité se fait avec l'apparition de la télévision dans les années 50. Et en fait, l'Amérique qui bascule d'un mode en fait, de structure et de société capitaliste bascule à une société consumériste, où en fait, avec l'apparition des classes moyennes après la Deuxième Guerre mondiale et puis la prospérité économique, en fait, s'invente un nouveau mode de vie où tout le monde a accès. Peut avoir accès aux mêmes conditions de vie. Vous avez des banlieues pavillonnaires qui commencent à arriver. C'est aussi la structure des villes qui s'organisent en fonction de la voiture, qui font champignonner des malls, où chacun peut avoir accès à une télévision, chacun peut avoir accès à ce genre de maison, donc ce genre de mode de vie. Comment? Tout simplement parce que c'est une réalité économique aussi, hein, sociale, c'est-à-dire que l'Amérique va accéder à un autre niveau de vie, c'est-à-dire qu'il va vraiment, ce qui va se généraliser, c'est une classe moyenne, c'est-à-dire une espèce d'égalisation. Je parle vraiment de l'après-guerre, hein, l'après-deuxième guerre. Une espèce de nivellement vers le milieu entre des gens qui étaient avant, vous savez, pendant la crise des années 30, vous avez vraiment une grave crise sociale. Et vous avez des gens très riches qui détiennent des capitaux et vous avez des gens très pauvres aux États-Unis. Et bien, dans les années 50, vous allez avoir une égalisation au milieu qui s'appelle la classe moyenne, tout simplement, où en fait le consumérisme va soutenir l'idée que désormais tout le monde peut avoir accès à peu près au même niveau de vie. C'est ce qui s'appelle l'American Way of Life, qu'on nous a vendu nous aussi. Et comment l'Amérique s'est vendue à elle-même ce modèle et nous l'a diffusé ensuite en Occident après le plan Marshall, bref, je ne vous refais pas des leçons d'histoire, mais par la fiction. En nous vendant un modèle. Et ce qui avait fonction de publicité de ça, vraiment, hein, c'était le but de ça, c'était la sitcom. Pourquoi je vous dis que c'était le but de ça? Parce que la sitcom, elle était produite par qui? Pas par les chaînes, par les sponsors. Et les sponsors, c'était les annonceurs. Les annonceurs, les fabricants de lave-vaisselle, les fabricants de voitures, de cigarettes à l'époque, c'est une autre époque, hein, de savon. Et en fait, c'était une surface, une vitrine pour la publicité, mais la publicité vantait aussi un modèle de société qui vous donnait envie du lave-vaisselle, de la voiture, du savon et de ce mode de vie, etc. C'est très important pour comprendre les mentalités américaines et notamment la vision qu'ils ont du bonheur familial. Et donc, pourquoi c'est très important? Parce que là, vous êtes dans un teen movie. Ça fait partie aussi des décors de sitcom, en un sens. Ça arrive que dans les sitcoms familiales, on est quelques... Vous savez, souvent, les sitcoms, c'est réduit à quelques scènes, à quelques espaces. La cuisine, le salon, et parfois le bureau de papa ou la salle de classe pour les jeunes. En fait, c'est une économie, la sitcom. Il faut limiter les décors. Bah, souvent, on avait quand même des décors dans les lycées, dans la sitcom. Donc, c'est aussi une vision de sitcom. Et là, on arrive dans un tableau qui est le décor presque parfait. Bon, on sent que, voilà, le jardin est entretenu de manière un peu aléatoire, mais... On sent quand même qu'on a la maison, vraiment, avec le jardin, vous savez, pas de clôture, on est dans une banlieue pavillonnaire. Et a priori, ce jeune garçon qui sort d'un terrain de baseball pourrait très bien être un jeune garçon d'une famille de la classe moyenne américaine. Sauf que qu'est-ce qui se passe? On comprend que ça et ça, c'était quoi? Ça, oui, j'entends. La façade, bien sûr. Là, une façade de jeu. Il joue une partition. Même il récite une partition. À un moment, il y a son copain qui lui dit, mais... Il lui parle de baseball et d'enjeux de baseball, on ne comprend pas trop. Il lui dit, mais super, tu vas avoir ta place dans l'équipe et tout. Et puis il lui dit, mais pourquoi tu ne t'intéresses pas à ça? Et puis, pour évacuer la conversation, il lui dit, si, t'inquiète pas, le baseball, c'est toute ma vie, j'adore ça. Mais il récite son texte, en fait. On comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Son attitude fuyante ne colle pas avec ce qu'il est en train de dire. C'est de la façade. Il est en train de performer son rôle de composition de jeune garçon de la classe moyenne. Et là, il arrive ici, pareil, à ce jeu d'acteur répond les accessoires et le décor. Tout cela n'est qu'une façade. Toute cette classe moyenne et toute cette normalité américaine n'est qu'une façade, parce qu'en fait, une fois que vous allez derrière, qu'est-ce qui se passe ? L'envers du décor. Et l'envers du décor, c'est d'ailleurs pour ça que Sidney Lumet vous met bien des décors bien beaucoup moins lustrés que la façade, vous avez vu, hein. La maison, l'arrière de la maison, le jardin, l'arrière-cour, pardon, elle n'est pas du tout aussi présentable que la façade. Et là, quand il passe derrière ici, là, j'ai volontairement pris ce truc-là, vous avez une bagnole désossée, on a une espèce de mur sans finition, il y a vraiment l'idée qu'on passe derrière la façade, on passe dans les coulisses. Et donc, dans les coulisses, qu'est-ce qu'on arrive ? On arrive à quoi ? Bah là, on est clairement dans une imagerie de film de fugitif. Moi, ça me fait penser à The Witness avec Harrison Ford, qui est sorti 5 ans plus tôt. Et clairement, c'est le but. Le but, c'est de vous montrer qu'en fait, on passe d'un teen movie à une sitcom, donc quelque chose de très normé. Et hop, en fait, non, il y avait l'envers du décor. Et donc, d'emblée, pourquoi c'est perturbant ? Parce qu'on se dit, ah bah oui, on a l'impression d'entrer dans les petits, on a l'impression d'arriver dans nos petits chaussons d'un territoire très connu, qui est celui, bah, en fait, de la fiction majoritaire, de la sitcom, de la classe moyenne, du teen movie. Ouais, bah, ça va être un personnage de teen, d'adolescent, qui va faire sa crise et tout. Mais en fait, non, c'est un peu plus perturbant. Et ce qui est d'autant plus perturbant, je ne pouvais pas vous montrer la suite de la séquence, sinon c'est trop long, mais ce qui est d'autant plus perturbant, c'est que juste après, là, ce jeune garçon qui a, on comprend, il est au lycée, donc il a 17-18 ans. Ce jeune garçon qui a 17-18 ans, il va chercher qui ? Il ne va pas chercher ses parents, il va chercher son petit frère. Non, le chien et le petit frère. En gros, il n'y a pas de parents, en fait, dans ce décor-là. Et ce qui est amusant, c'est que les enfants vont finir par alerter les parents, qui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on va le comprendre aussi, sont eux aussi dans leur couverture, eux aussi dans une façade. Mais à ce moment-là du film, ils sont dans une façade qui est un peu plus récréative que celle de la suite du film où ils font clairement des boulots alimentaires. Là, ils sont à Greenpeace au tout début. Je ne sais pas si vous avez capté ça. On voit le logo de Greenpeace. Et en fait, on comprendra plus tard que c'était certes une façade, mais un peu plus raccord avec leurs convictions. En fait, ils étaient dans une façade, mais quand même assez consentis, parce qu'ils faisaient un boulot passion, tous les deux. Ça marchait plutôt bien. On imagine qu'ils ont été placés de manière assez astucieuse par leur réseau. Mais donc, en fait, c'est un peu les enfants qui prennent la responsabilité de déclencher un départ, et qui alertent leurs parents, qui, en fait, étaient presque en train de badifoler comme deux ados, qui était dans un job passion et qui adore ça. Et d'ailleurs, on sent, au début, ils sont présentés, les parents, comme des parents qui font un job ensemble, qui adorent ce qu'ils font, qui parlent, qui évoquent des choses de la vie quotidienne. Ils ne parlent pas du tout de leurs enfants, quoi. C'est pas des parents qui lui sont présentés comme des parents. Ce ne sont pas eux qui déclenchent la fugue et la fuite. Ce sont les enfants qui prennent cette responsabilité-là. Et en fait, vous avez vraiment tous les enjeux du film qui sont plantés. Enjeu de la façade, enjeu du théâtre, enjeu de la comédie, enjeu de la famille. Ok, ça ressemble au décor d'une famille normale. Et d'ailleurs, vous allez comprendre qu'en fait, ça fait partie de leur stratégie de fuite. Trouver du maquillage, porter le masque de la normalité. Après tout, ils ressemblent à une famille normale. Ils investissent des maisons normales. Ils prennent des boulots normaux. Ils se font passer pour des gens normaux. Lui est au lycée. Le petit frère est au collège ou à l'école primaire. Papa et maman travaillent. Ils ont des voitures. Les apparences de la normalité. Sauf que il y a quelque chose qui cloche. Puisqu'en fait, ce sont les enfants qui assument la responsabilité de beaucoup de choses dans cette famille. En tout cas, ils sont impliqués dans la prise de décision qui devrait plutôt être la responsabilité des parents. Et donc là, dans ce jeu-là, s'installent tous les enjeux du film. Les enjeux du film, c'est comment peut-on... Parce qu'après tout, il est adolescent. Il a l'âge de James Dean. Tout le monde voit le rapport avec James Dean très très vite. Comment peut-on se rebeller quand on est adolescent ? Quand, en fait, toute votre vie consiste à vivre de rupture en rupture. Comment fuguer ? Comment se rebelle un adolescent ? Il est en rupture avec sa famille, il fait une crise. On pourrait dire qu'il se rebelle, il se révolte, il fugue. Mais comment se rebeller, se révolter et fuguer quand votre vie tout entière n'est que fugue, rébellion et contestation ? Comment se rebeller au sein d'un foyer dont vos propres parents sont les ceintures noires de la rébellion ? Comment se rebeller dans un foyer où vos propres parents n'ont jamais quitté la rébellion adolescente, en fait ? C'est ça, tout l'enjeu du film. Comment se rebeller quand vous avez sur vos épaules, en partage, une responsabilité qui n'est pas celle de jeunes gens comme Danny et son frère ? Et donc, tout l'enjeu du film, ça va être de trouver une manière, une façon pour Danny de se rebeller dans une famille qui est déjà une rebelle. Dans une famille qui est même l'héritière d'une rébellion qui est celle de la contre-culture des années 70, qui est celle de la culture de la contestation de cette époque-là. Pourquoi culture de la contestation et pourquoi culture de la contestation finie ? Pourquoi c'est du passé ? Vous l'avez bien compris. Parce que les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Un attentat terroriste qui aurait dû être non-violent, qui a été accidentellement, qui a accidentellement blessé quelqu'un. Et dans quel contexte ça se faisait ? Vous avez compris les enjeux un petit peu de... C'est en arrière-fond, hein, donc le film n'est pas politique, vous avez bien compris. Hein. Mais quand même, on vous dit ce que c'est. On vous dit qu'en fait, ils ont essayé de détruire une usine de napalm. Et donc, qui dit napalm, dit guerre du Vietnam. Et pourquoi, en fait, ils sont, ils subissent en fait le spectre de leur héritage, le spectre du passé, parce qu'en fait, la guerre du Vietnam n'est plus. Mais ils sont toujours poursuivis. C'est comme s'ils étaient poursuivis par le spectre de leur adolescence qui n'a jamais fini, qui n'a jamais cessé. Et là-dedans, ils ont fait de famille. Et donc, qu'est-ce que ça vous raconte ? Ça vous raconte plusieurs choses. Qu'il est très difficile de se rebeller dans un environnement déjà rebelle. Et surtout que peut-être que cette famille qui ressemble à une famille comme les autres, eh bien peut-être que les apparences de la normalité, peut-être que ce qu'elle arrive, le petit théâtre de la normalité dans lequel elle arrive à se dissimuler parmi les autres, eh bien peut-être que ça dit quelque chose de la famille aussi. Peut-être que chacun joue un rôle. Peut-être que le bonheur, c'est de jouer un rôle et de prendre goût à cette partition. Je n'en dis pas plus, on va aller dans le film. Bon, c'est une scène très rapide, mais c'est souvent les plus intéressantes quand elles sont assez chargées, quand elles sont assez riches. En fait, là, vraiment, l'enjeu de la scène, c'est très intéressant, c'est de faire sentir à quel point cette famille, mais au fond, on peut toujours généraliser à toute famille, même unie, n'en reste pas moins une cellule familiale. Et c'est vraiment l'idée, pendant toute une bonne partie du film, de vous faire ressentir à quel point les responsabilités qui incombent à Danny et son frère, l'obligation d'être unis, parce qu'en fait, voilà, il y a un enjeu dramatique hyper important, qui est de ne pas se faire attraper, d'être hyper solidaire, bah, crée un sentiment d'enfermement du point de vue de Danny. Pourquoi du point de vue de Danny, plus que de son petit frère ? Bien sûr, parce que Danny est à l'âge où on commence à ressentir d'autres besoins. On verra lesquels, mais on les a déjà esquissés, bah, celui de peut-être défier l'autorité, peut-être de remettre en question ce qu'on a entendu toute sa jeunesse. Pourquoi ? Tout simplement pour gagner en indépendance et pour s'affirmer soi-même. Toujours un enjeu d'affirmation, un peu comme dans Atlantique. Hein. C'est un peu l'intérêt de montrer ces films-là à des jeunes qui ont cet âge-là. C'est qu'en fait, cet âge-là est aussi l'âge de s'affirmer, l'âge de l'affirmation, l'âge de prendre son indépendance et sa liberté par rapport au groupe. Prendre son indépendance par rapport au groupe, s'affirmer, ce sont les enjeux du teen movie. Ce sont les enjeux du teen movie depuis James Dean. Et là, contre qui il faut s'affirmer ? Contre quelle autorité il faut s'affirmer ? Bah, c'est toujours un peu la même. Hein. C'est contre l'autorité du père. Et là, vous avez typiquement une scène de défiance de l'autorité du père. Et ce qui est assez amusant, c'est un peu l'arrière-plan constamment comique, c'est que comment on peut défier l'autorité d'un père qui a été un contestataire de la politique, qui a été un rebelle, qui est recherché par le FBI ? Comment on peut contester l'autorité d'un père qui est anti-autoritaire ? Eh bien, tout le film vous y répond de manière assez ironique, avec un petit sourire en coin. Ça n'est pas parce qu'on est le plus grand rebelle du monde qu'on ne peut pas faire preuve d'excès d'autoritarisme. Et c'est d'ailleurs comme ça que Danny le rappelle à l'ordre en lui disant « Bah oui, mais tu nous as appris à nous affirmer, tu nous as appris à défier l'autorité, mais tu es aussi autoritaire que le général Payton. » En fait, il l'insulte de militaire, vous avez compris. Hein. Général Payton qui est évidemment une insulte très très connue, puisque c'est un peu l'image caricaturale dans le réel de ce redresseur de tort, cet instructeur, vous savez, de Full Metal Jacket de Kubrick. Ce n'est pas ce personnage-là, mais c'est un peu l'image vraiment du militaire hyper, hyper autoritaire, tyrannique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comment se traduit cette dissension dans le plan ? En fait, tous les plans de famille ne sont pas toujours exactement comme celui-là. On dirait qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça, mais tous les plans où on a tous les membres de la famille ensemble ne sont pas toujours de même nature. Quand la famille est plutôt dans une situation apaisée, calme, comme un repas, ou par exemple celui à gauche, qui est la première scène de repas après les premières journées sous la nouvelle couverture, quoi, dans la nouvelle vie, où chacun explique ce qu'il a fait. Il y a le père qui dit qu'il a trouvé un job, la mère qui dit qu'elle a trouvé un job et qu'elle a déjà été payée, le petit frère qui dit qu'il s'est fait des copains, et puis Danny qui dit que bon, bah, ça s'est plutôt bien passé et que l'inscription s'est bien passée, mais que demain il ne va pas aller en cours parce que c'est la photo de classe et qu'il va esquiver. Bref, tout le monde joue sa partition, tout le monde révise son rôle, tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait, et c'est plutôt une scène heureuse. Là, c'est carrément la scène la plus heureuse du film, vous vous souvenez, c'est celle de l'anniversaire de la mère, qui se passe très bien, puisque... Évidemment, pourquoi le film est poignant ? C'est pas juste parce qu'il y a des dissensions dans la famille, il y a des fractures et des crises, c'est aussi parce que c'est une famille qui s'aime. Et donc, il faut montrer des scènes d'harmonie. Et donc, cette harmonie familiale se passe toujours dans un plan où tout le monde est au même endroit. L'harmonie, les scènes d'harmonie, les scènes où vous avez le cœur serré parce que ça se passe très bien, et même Danny, qui ramène Lorna, n'est plus du tout dans un rapport de défiance à l'autorité, mais plutôt de complicité avec son père. Bah vous remarquerez, vous irez voir vous-même dans le film, que ce sont toujours des scènes qui sont filmées où les personnages sont ensemble dans le cadre. Sauf que la scène de tout à l'heure que je vous ai montrée, elle arrive à créer des ruptures dans un même plan. Et elle le fait souvent, en fait. Le film le fait souvent. Là, dans ce plan, il arrive d'abord à créer une espèce de séparation entre Danny au premier plan et son père qui est rejeté tout au bout du cadre, là-bas, au second plan. Ensuite, comment la mère vient se mettre, se surcadrer comme ça dans une porte et être déjà entre deux espaces. Elle-même est dans son espace à elle. Donc, elle n'est pas tout à fait en complicité avec le père et elle n'est pas non plus dans l'espace de Danny. Et puis, vous avez carrément l'espace derrière du frère qui est le spectateur de la scène. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, ça me fait rire. Mais quand ça commence à s'embrouiller, le frère rigole, sourit, parce qu'il est au spectacle. Et il y a vraiment cette idée qu'on va créer des espaces dans l'espace, des cellules dans la cellule, évidemment toujours dans un effet d'enfermement, mais aussi pour dire que chacun n'est pas forcément raccord et qu'il y a des moments où on n'est pas d'accord. Il y a plusieurs moments du film, notamment dans la salle de, le début du film, dans le motel, où en fait la salle de bain permet aussi de créer un espace comme ça, où on répète son rôle, où on change de tenue, où on change de cheveux, et où la mère a vraiment l'espace de la salle de bain derrière. Elle a souvent l'espace de la cuisine et de la salle de bain, qui permet de la distinguer, de la dissocier de l'espace du père. Donc le film va constamment chercher comme ça à créer au sein de cette famille unie, de créer un sentiment d'enfermement. On est dans une cellule familiale, c'est quelque chose qui peut être potentiellement étouffant. Et puis de créer aussi des dissensions. Et puis de créer aussi une circulation de symboles. Là, dans ce qui se disent et dans ce qui se montre, il y a des choses très intéressantes à analyser. Par exemple, il y a quelque chose de très riche autour de la musique. Quelque chose de très riche à interpréter autour de quelle musique, vers quelle musique on s'oriente. Et il y a même quelque chose d'assez paradoxal. Puisque comme le père est le rebelle des rebelles, le roi des rebelles, qu'est-ce qu'il revendique comme musique ? Le rock, la musique des rebelles de sa génération. Puisque le père a été activiste au début des années 70, on imagine qu'il avait une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, en fait, il a très probablement grandi, voire été jeune, dans les années 50. Et donc pour lui, la musique des rebelles, c'est le rock. Ou ce qui dérive du rock. Ce qui est vrai, d'ailleurs, dans les années 80. Le rock est encore un genre rebelle. Et son fils, qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Il va plutôt vers la musique classique. Plutôt vers la musique classique qu'il tient en héritage, on ne le sait pas encore à ce moment-là de la fiction, mais ce n'est pas très grave, qu'il a en héritage de sa mère, qui a des origines plus bourgeoises. On l'apprendra avec les beaux-parents. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on a un clash entre un père qui dit « Tu ne te rebelleras pas parce que de toute façon, ce n'est pas la bonne musique. La vraie musique de la rébellion, c'est le rock. » Et lui, il a envie de gagner en indépendance en allant vers une musique plus embourgeoisée. Ce qui est plutôt paradoxal. Dans un schéma plus cliché du teen movie, les parents de la classe moyenne demanderaient à leurs enfants de faire leur gamme, de connaître leur solfège. Et puis la façon de se rebeller, c'est de faire du rock, bien sûr. De faire de la musique garage. La culture garage, c'est les années 80. Lui, pas du tout. Regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire du piano. Et élément très intéressant, il fait du piano sans le son, qui devient évidemment le symbole et une interprétation assez facile, puisqu'il ne peut pas crier sa crise, puisqu'il ne peut pas exprimer sa rébellion. Il est réduit au mutisme. Il est presque un acteur muet. En fait, il ne peut tellement pas dire qui il est à Lorna, par exemple. Il ne peut tellement pas dire qui il est à ses amis du lycée qu'en fait, ce personnage, qui est même réduit au mutisme au sein de sa famille, puisque la place du rebelle est déjà prise, en fait, ce personnage, la plupart du temps, est réduit à un rôle de pantomime. Il n'est là qu'à mimer des choses qu'il ne peut pas dire, qu'il ne peut pas expliciter. Il y a une scène assez intéressante que je vais vous montrer qui explicite ça, que Danny, en fait, ne peut pas s'exprimer. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la première façon de se rebeller, c'est en s'exprimant, en portant la voix et en exprimant son point de vue par rapport à celui de son père ou d'une figure d'autorité. Et donc, je vais vous montrer une autre scène qui est dans une scène typique du teen movie, vraiment le décor parfait, où vous êtes dans la chambre de la girlfriend. Il va à ce fameux concert. Sa future petite amie l'invite à monter dans sa chambre. Il accepte, il n'est pas fou quand même. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir qu'il va s'emparer d'éléments, il va s'emparer d'accessoires. Il va un petit peu se dérober au regard du père qui, à ce moment-là, vient lui demander où est Danny à sa fille. Et je vais évidemment soyez attentif au fait que Danny est quelque part un personnage dont la rébellion est réduite au silence. Donc soyez très attentif à tous les motifs, à toutes les figures que vous allez voir. Essayez d'interpréter ça. Je vous montre ça. C'est donc la scène dans la chambre où Danny est avec Lorna. Alors ça passe très vite, mais je trouve que c'est une scène qui est très intéressante à mettre en regard de la scène juste précédemment, comment elle terminait, il se remettait au piano, il rejouait en sourdine. Mais c'est précisément ça en fait, Dany, pendant tout le film. C'est une rébellion en sourdine qui ne peut pas s'exprimer. Et donc juste après avoir joué avec la sourdine, avec un piano qui ne fait pas de musique, eh ben, il va jouer sa partition d'adolescent rebelle sans le son. Il la joue sans pouvoir dire. Et d'ailleurs, c'est ce que lui reproche Lorna. Elle lui dit, mais je comprends pas qui t'es en fait. Tu ressembles, en gros, en sous-entendu, tu ressembles à un ado comme les autres et en même temps, tu es constamment dans... à ravaler, à inhiber quelque chose. Et donc, il se retrouve à faire quoi ? Bah, il se retrouve à caricaturer une scène, il se retrouve à caricaturer presque sur le mode de la pantomime, ou quand il prend la guitare, qui est une espèce de contrefaçon de guitare en gonflée, là, il se retrouve à caricaturer un rôle d'ado qu'il ne peut pas jouer, en fait. Comme il ne peut pas jouer, comment il se rebelle contre ce refus-là ? Bah, il va caricaturer ça. Néanmoins, il va quand même connaître... la scène est quand même assez typique et assez archétypale d'une scène d'ado où on va se cacher, se dérober à la vue de l'autorité paternelle, on va passer par la fenêtre, on dragouille un petit peu Lorna, la girl next door. Et ce qui est assez amusant, c'est que le film, évidemment, explicite la situation de mutisme dans laquelle se retrouve Dany en citant une grande figure de cinéma qui est Charlie Chaplin. Il en cite une autre, en vérité, parce qu'il met un canotier. Et je pense qu'il cite aussi Buster Keaton. Donc, en fait, quelque part, Dany ne peut pas s'exprimer, ne trouve pas sa voix. Il est presque réduit à du cinéma muet. Il est presque réduit. Et d'ailleurs, c'est la scène la plus burlesque du film où il va se cacher, il va passer par la fenêtre, il va faire de la guitare. Et en fait, Dany n'a pas de voix, n'a pas trouvé sa voix. Pourquoi ? Parce que le film, depuis le début, vous l'avez bien compris, mais là, je vais vous le remontrer avec des captures, joue d'une inversion des rôles. Qui sont les ados ? Qui sont les adultes responsables ? Évidemment, puisque ça joue d'une inversion des rôles, c'est que les ados et les adultes responsables ne sont pas exactement ceux auxquels on s'attend. Puisque ceux qui déclenchent la fuite au début, c'est les enfants, donc ils prennent cette responsabilité-là. Et ceux qui se comportent comme des ados dans le film, c'est plutôt les parents. Là, vous avez la scène, vous savez, où vous avez cette figure du passé qui ressurgit, Gus, l'activiste resté beaucoup plus actif que les parents de la famille, et qui vient, on comprend, alors c'est pas explicité, mais bon, qui aurait peut-être pu être un petit ami de l'époque ou un concurrent pour Arthur, le père. Et elle est surprise sur le canapé dans une scène où c'est plutôt d'habitude dans le teen movie des jeunes qui sont surpris sur le canapé. Souvent, c'est le papa qui débarque et comme les teens, les ados n'ont pas d'espace à eux, ils sont surpris par les parents. Cliché du teen movie. Ben là, c'est la mère qui est surprise par son mari. Inversion des rôles, c'est un peu elle qui a le rôle dans le rôle de l'ado. Là, pareil, tout en haut, évidemment, celui qui ne cesse de dire de manière un peu tyrannique, de rappeler constamment les règles, qu'il faut connaître son rôle, c'est quoi ton rôle, tu dois répondre quoi, non, tu n'iras pas. Qui joue, surjoue ce père, cette espèce de couverture-là, bah, finit par craquer et, sous l'effet de la jalousie ou en tout cas d'un trop-plein de tension et de pression, fait une petite soirée d'ivresse. Et qui, évidemment, est obligé de le ramasser ? Eh bien, c'est son fils, sa femme, mais bien sûr, mais d'abord son fils. Ce sont les enfants qui constamment assument des responsabilités de faire béquille pour leurs parents qui sont des ados. Alors qu'en vérité, l'origine de cette scène-là est ce qui est cité, notamment dans la scène de droite, mais aussi dans celle de gauche d'ailleurs, c'est plutôt la fureur de vivre. Le dialogue assez explicite avec une référence du film, oui, c'est la fureur de vivre. Quand James Dean revient, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez en tête, la fureur de vivre, ou pas du tout. J'ai essayé de montrer un extrait hier, mais ça n'a pas marché. Donc je vais réessayer, mais je ne suis pas sûr qu'on... Bon, désolé, je ne peux pas vous le montrer précisément, c'est un clip que j'ai chopé sur YouTube. Mais en gros, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que James Dean, on est à peu près au milieu du film, James Dean a essayé d'intégrer un groupe de rebelles de son lycée, et ça, c'est pour prouver sa valeur, comme dans toutes les scènes d'initiation du teen movie, il a dû... faire l'épreuve de quelque chose. Là, c'était une course de voiture. Sauf que ça a très mal tourné et qu'il a ralenti juste avant la falaise et l'autre est passé de l'autre côté, enfin, est tombé dans la falaise. Donc, meurtre, donc responsabilité directe. Il va voir ses parents, un peu alcoolisés, et il leur dit, voilà ce que j'ai fait, je vais me dénoncer à la police. Pourquoi il leur dit ça ? Parce que, scène typique de rupture, c'est comme ça qu'il a été élevé. Donc, en fait, il a été élevé dans la droiture, dans, voilà... Il a une conscience morale, il sent le poids de sa responsabilité, il veut se dénoncer et il en informe ses parents. Sauf que là, ses parents, qu'est-ce qu'ils lui répondent ? Ses parents qui sont des vrais bons petits-parents des années 50 de la classe moyenne, on est dans une maison de sitcom. Ses parents lui répondent « Non, n'y va pas, ne te dénonce pas ». Et là, en fait, c'est là le moment, la goutte d'eau, l'étincelle de la vraie crise de James Dean dans le film, où il va même empoigner son père et le faire tomber. C'est quand il se rend compte, en fait, de la duplicité, merci. Quand il se rend compte de la duplicité de l'éducation, qu'en fait, La bonne morale, ça tient du moment que la façade tient, en fait. Mais en fait, ce qu'on va privilégier, c'est plutôt la façade familiale. C'est toujours la façade. Et lui, il trouve ça insupportable, il trouve ça injuste. Et donc, se rebelle contre l'autorité paternelle qui vient de faire preuve, bah, tout simplement, d'incohérence. Et c'est un peu la même scène, celle de l'ivresse avec le père, sauf que bon, bah, voilà, celui qui se retrouve dans une situation de crise, c'est le père. Celui qui le soutient, c'est le fils. Mais ça va avoir exactement le même effet. C'est-à-dire que tu nous astreins à une discipline presque militaire où on doit connaître nos rôles, on doit tout faire toujours très bien, mais même toi, tu finis par craquer. Donc en fait, quelque part, le film n'est jamais explosif. Il ne joue jamais sur ce mode-là. Jusqu'au bout du bout du bout du dernier twist, Danny va rester aux ordres, en fait. Même quand il est abandonné sur le bord de la route et que son père lui dit « mais vas-y, vis ta vie », c'est presque son père qui lui donne un ordre de vivre sa vie. Bon, je vous le remontrerai la scène, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, en fait, le film dialogue quand même avec cette scène-là. Et donc, il y a toujours une inversion des rôles et l'idée qu'en fait, c'est très difficile dans ce film-là eh bien, de défier l'autorité. Et le film ne va cesser de rappeler des figures d'autorité plus classiques. Parce que celle du père de Danny est tellement marginale, elle est tellement exceptionnelle, elle est tellement rebelle que lui est refusée cette rébellion. Et donc, on va agiter comme ça d'autres figures paternelles dans le film qui vont rappeler en fait les figures paternelles du teen movie des années 50. Et celle qui va faire affaire à ces, qui va avoir affaire, pardon, à ces figures-là, c'est la mère. La mère qui est en fait en complicité et en compassion la plus proche avec son fils, celle qui comprend le plus vite en fait les besoins de son fils. En fait, elle a un rôle beaucoup plus important que simplement celui d'un trait d'union. C'est celle qui comprend en fait, celle qui comprend très très vite en fait que Danny lui ressemble à elle le plus et qu'elle va essayer de plaider sa faveur. Et donc, elle va avoir plaider en sa faveur, pardon. Elle va avoir affaire comme ça à des face-à-face avec des figures paternelles qui, vous le voyez, évoquent des figures paternelles beaucoup plus archétypales, beaucoup plus stéréotypées. On a des nœuds papillons, on a des cravates, on a des moustaches, on a des hommes qui sont plutôt des figures paternelles classiques de la société traditionnelle américaine, qui incarnent la bourgeoisie dont on s'est distingué dans cette famille-là. Vous comprenez ? En fait, et d'ailleurs, vous remarquerez que les face-à-face avec, le conformisme américain, donc les face-à-face avec les figures du conformisme, ont toujours lieu dans des champs contre champs, comme ça. Là, c'est pour ça que je vous ai filmé à chaque fois le champ et le contre champ. Et d'ailleurs, il y a un champ contre champ. Il y a une scène qui est assez belle, c'est celle de la confrontation entre sa fille, la mère, avec son père, où en fait, elle est toujours filmée en plan légèrement moyen, comme ça, un peu plus petite par rapport à lui, et lui est toujours filmé en très gros plan, comme s'il la dominait, comme s'il exerçait encore un ascendant sur elle. Alors qu'on comprendra évidemment au fur et à mesure de la séquence que lui aussi a souffert. Mais bref. Et la mère, en fait, à chaque fois se retrouve comme ça à assumer des face-à-face quelque part avec les choix de vie qu'elle a fait et qu'elle n'a pas envie de faire peser sur les épaules de son fils. Et quand elle se retrouve plus en complicité avec des membres de sa famille, on est plutôt dans une mise en scène qui va annuler le champ contre champ et qui va la mettre en complicité dans le même plan, dans des scènes de discussion. Donc là, typiquement, une scène de réunion, en fait, d'harmonie autour du clavier de piano, qui est en fait le symbole de ce qu'elle lui a transmis. Et puis, une scène, évidemment, avec son mari, parce que ce qui est très beau, c'est que certes, son mari a des accès de tyrannie, a des accès d'autoritarisme, mais ça reste une famille très unie, et puis il y a toujours de l'amour. Et puis, elle essaie de lui faire entendre raison. C'est une scène, j'aurais pu la citer, celle-là, mais je n'ai pas le temps. C'est une scène très belle de discussion entre les deux, où je pense qu'en fait, Sidney Lumet dit une partie de ce qu'il pense, en tant que personne. En fait, cette scène-là, vous savez, c'est la discussion où elle lui dit « mais on devrait laisser Danny ici. Je me suis arrangé avec ma famille et tout ça. » Et le père continue de résister. Et en fait, on se dit, voilà, la logique dramatique de la scène veut qu'on soit du côté de la mère. Et qu'on dise « bah oui, non mais attends, là, on a tous compris qu'il ne peut pas obliger son fils à subir ses choix à lui de vie. » On est complètement du côté de la mère. Et en même temps, à ce moment-là, le père a un argument qui va vachement dans le sens, je trouve, de ce qu'a vécu Sidney Lumet, même dans son enfance. C'est que le père lui dit « Mais regarde à quel point nos enfants sont magnifiques. » Il lui dit « Regarde à quel point ils ont le sens de la compassion, à quel point ils sont beaux et à quel point ils ne sont pas comme les autres, en fait. » Et je pense qu'à ce moment-là, on est obligé de se dire « Mais c'est vrai, en fait, que cette extrême marginalité-là qui c'est un peu fondue chez les autres et peut-être un peu plus humaine que les autres. » Peut-être, je pense qu'ici se joue quelque chose de ce que pense vraiment Sidney Lumet. Je pense qu'il donne un point au père à ce moment-là. Tout en, dans la logique dramatique du film, reconnaissant que le père est beaucoup trop autoritaire et ne peut pas décider pour son fils. Quelque chose doit être fait. L'enjeu du film doit être consumé. Et c'est quoi l'enjeu du film ? C'est un enjeu très universel qui vous concerne tous et qui nous concerne tous, parce qu'on a tous des familles, on a tous été des enfants de quelqu'un, vous êtes peut-être les parents d'enfants à leur tour. L'enjeu, c'est quoi ? C'est l'acceptation de cette très douloureuse séparation inéluctable. Les enfants doivent quitter le nid, prendre leur envol, quitter les jupons de leurs parents. Je sais que c'est de plus en plus difficile et qu'ils le font de plus en plus tard. Aujourd'hui, on ne le fait plus à 17 ans, mais c'est une fracture, c'est une séparation nécessaire. Et cette séparation, comment elle a lieu ? C'est là que le film est très intéressant. Comment faire une séparation, comment faire une rupture dans une famille qui vit constamment sur les routes, qui vit constamment dans une boucle de fugue ? Et vous allez voir, je vais vous montrer la toute fin, et j'ai coupé évidemment à dessein, volontairement. Vous allez essayer de vous demander quel est l'élément déclencheur, pourquoi le père change subitement d'avis, comment se passe la rupture, et essayer de l'interpréter évidemment, puisque c'est une famille sur les routes, constamment sur les routes, comment se passe la rupture, à quoi ressemble-t-elle ? Évidemment, vous l'avez compris, hein, tout ça n'est qu'une métaphore. C'est évidemment ce qui vous attend quand vos enfants, vos grands-enfants de 18, 19 ans partiront à la fac, loin de chez vous, pour la première fois, et que vous les verrez quitter leur chambre, votre nid, et que vous vous retrouverez seul dans la maison ou l'appartement. Mais voilà, c'est exactement la même histoire. Sauf que là, l'extrême marginalité de cette famille, de cette fiction, permet de légèrement déplacer l'enjeu, enfin, déplacer le décor et l'univers du film pour mieux nous ramener à quelque chose de très affectif et très familial. L'enjeu, c'était quoi, en fait ? C'est l'enjeu d'un double apprentissage. Évidemment, l'apprentissage pour Danny, l'acceptation de la séparation nécessaire, il va falloir se séparer de cette famille. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Et en même temps, la séparation et l'apprentissage, il est double. Si c'était que celui de Danny, ce serait facile. Non, c'est aussi celui de son père. Jusqu'au bout, le père résiste à l'inéluctable fatalité. La fatalité, c'est quoi ? C'est qu'il va falloir se séparer de Danny. Et qu'une bonne éducation n'est pas une éducation qui maintient nos enfants au stade d'enfant, c'est-à-dire de fils d'eux constamment. C'est une bonne éducation, c'est quelqu'un qui prépare un futur adulte à devenir une grande personne responsable et à devenir lui-même. Et donc, c'est un peu la forme que ça prend. On t'aime, on t'a très bien élevé, tu es quelqu'un de formidable, tu vas changer le monde. Mais néanmoins, maintenant, c'est à toi de jouer ta partition tout seul. Et donc, quelle est la métaphore aussi de cette famille constamment sur les routes ? Vous avez vu que la route est même graphiquement figurée. Il y a une espèce de demi-tour comme ça. Et puis, il ne le laisse pas n'importe où. Il ne le laisse pas dans une ville. Il ne le laisse pas à la fac. Il ne le laisse pas devant chez sa petite amie. Il le laisse presque sur une aire d'autoroute. Il y a l'idée que toi, tu veux faire une pause. Et donc, ce qui est assez malin et ce qui est assez paradoxal du point de vue du teen movie, où normalement, comment on fait sa crise ? On fugue, on sort, on passe par la fenêtre, on se révolte contre sa famille, on brûle sa maison. Bon, ça, c'est pour les pires. Mais là, cette fois-ci, c'est presque une fugue qui est un rappel à l'ordre. En fait, c'est échanger les routes contre sa routine. Lui a envie de vivre sa sitcom. Comme ce n'est pas l'habitude et l'ordinaire de ce qu'il a vécu avec cette famille, lui a envie de se stabiliser. C'est presque une espèce de révolte par le retour à l'ordre et un désir d'ordre, un désir de conformisme. C'est là que le film est quand même plus malin et plus ambigu et plus équivoque qu'un simple teen movie comme les autres. C'est-à-dire qu'on a une figure de rebelle qui ressemble à James Dean, mais en fait, lui, ce qu'il veut, c'est quoi ? C'est vivre dans une sitcom. Il veut la petite amie, il veut la chance dans son école de musique, Undo Stress, pour ceux qui se rappellent de cette sitcom espagnole. Il veut vivre sa vie de danseur et de chanteur. En fait, il veut son film des années 80. Il en a marre de vivre dans un film des années 70, parce qu'en fait, ses parents sont restés campés dans le cinéma des années 70 contestataire. Ça va bien 5 minutes, la contestation. Et quelle place ça laisse à un jeune rebelle de 17 ans ? Eh bien, un désir de pause. Voilà, exactement. Whiplash et Juilliard, exactement. Mais oui, mais ça existe, hein, Juilliard. Oui, Juilliard, ça existe. Et donc, qu'est-ce qui déclenche chez le père la décision de laisser son fils partir ? C'est l'assassinat de Gus, évidemment, qui est très symbolique, puisqu'il comprend qu'en fait, tout cela n'a... Il n'a pas envie de ça pour son fils, et que tout ça ne mène, évidemment, qu'à une impasse. Et donc, il y a cette très belle idée, je trouve aussi que, mine de rien, on se dit, ah, mais pourquoi il lâche son premier fils et pas le deuxième, après tout ? Lui aussi a l'air très responsable, mais bon, il a quand même encore besoin du fruit de cette éducation. Je veux dire, certes, les enfants doivent prendre leur envol, mais peut-être pas à 11 ans et demi. Pardon ? Ils ont abandonné le chien qui faisait partie d'une couverture. Peut-être que lui aussi avait reçu son éducation et devait prendre son envol. Non, là, pour le coup, c'est vraiment cruel. Et d'ailleurs, ce qui participe de quelque chose de très confus au début, hein. C'est perturbant. Hein. On se dit, waouh, ils sont capables de virer un chien, quand même ? On est tous choqués chaque année du nombre d'animaux abandonnés sur les bords de route. Mais c'est ce que voulait River Phoenix, le destin du chien. Tout ça pour vous dire évidemment que c'est toujours le même récit du teen movie et de rébellion et l'histoire d'apprentissage. C'est l'idée que pour devenir quelqu'un, il faut cesser d'être l'enfant de ses parents. Il faut prendre son indépendance par rapport au groupe, qui est là, rejoué dans le cadre d'une famille. Mais l'idée de prendre son indépendance par rapport au groupe, c'est l'enjeu de tout teen movie. Vous savez, les films de bande, Souvent, les films de bande sont filmés du point de vue d'un personnage qui voudrait prendre son indépendance par rapport au groupe, pour affirmer tout simplement son individualité. Exactement comme Ada, à la fin, s'affirme à la fois dans son identité, son intégrité, mais aussi dans son individualité. Ben là, c'est pareil. Tout film d'ado incite vos élèves à parfois prendre un peu de distance par rapport aux autres pour devenir pleinement eux-mêmes. Là, les autres, c'est la famille, mais la famille n'est qu'un groupe, après tout, n'est qu'une cellule. Et on se trouve au lycée, dans les établissements et dans la vie. On se trouve d'autres familles. Et devenir pleinement soi-même, c'est devenir un individu. Ça, c'est une morale très américaine, mais vous êtes dans le cinéma américain. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Oui, ça frémissait tout à l'heure.
J'ai beaucoup aimé le début du film. Je trouve qu'il est très bon avec les gens, etc. Et je trouve que dès le début, il nous demande de nous intéresser à une couleur qui est pour moi la couleur de la marginalité dans le film. Ça vient ponctuer le récit de l'absence, de la clandestinité, de la fuite en avant. Ça a l'air tout bête, mais il me semble que c'est le jaune. Au tout début, il a un vélo jaune délavé. Il est juste à côté d'une une boîte aux lettres. À côté, on dirait qu'elle vient juste d'être repeinte pour le film. Elle est jaune aussi à côté. L'importance des taxis jaunes, parce que quand ils vont partir, ils vont monter dans un taxi jaune. Il les voit, attends, je vais voir d'abord ma copine, etc. Le jaune aussi, quand elle va voir le dentiste, elle a besoin de lui, il est dans le réseau. Et la voiture jaune, une voiture jaune passe de taxi. Pendant la conversation, une deuxième passe encore. Lorsqu'elle dit à Gus, c'est bon, c'est fini, va-t'en, il y a des tournesols entre les deux, très discrètement, jaune. Et là, le terrible dialogue avec le père, qui est dans sa douleur, il y a des fleurs et des roses jaunes qui sont là. Et c'est vraiment la couleur de l'absence, de la douleur. Il lui reproche sa clandestinité. Et j'ai trouvé cette façon très subtile et élégante de jalonner le récit de cette couleur, de fuite en avant, de marginalité. Moi, très subtile, j'ai beaucoup aimé. Et à la fin, le vélo est vert, il n'est pas jaune. Et même la façade de la maison est un jaune très, très pâle. Donc, il joue beaucoup sur les tonalités du jaune. Et c'est une possibilité, mais je me dis, mince, tant de coïncidences, c'est plus des coïncidences, j'ai l'impression. Quoi.
Oui, par rapport aux figures de rebelles que vous évoquiez, je trouve ce qui est intéressant, c'est donc cette évolution à travers les âges de cette image du rebelle, puisque donc il y a ce par ricochet, donc on comprend qu'il y a la présence de James Dean, mais qui est un rebelle sans cause, lui. Il n'a pas de cause, il est enfermé dans une vacuité de l'existence. D'autant plus, enfin, lui, il est prisonnier de cette situation parce que ses parents étaient d'une génération qui ont fait la guerre et lui, donc, il évolue dans un contexte de l'American Way of Life où justement il n'y a pas de cause possible. Et donc, il y a cette évolution donc, avec le film. Les parents de Danny, donc, eux, sont des rebelles qui ont une cause politique. Et donc, du coup, à son tour, donc Danny, lui, est prisonnier, comme vous l'évoquiez très bien, donc de cette situation. Quelle cause inventer ? Et alors, est-ce qu'il ne réinvente pas une cause, peut-être, d'un rebelle, mais avec des outils d'artiste, en fait ? C'est le mot de la fin. Ce qui est intéressant, c'est cette évolution à travers les âges, avec ce nuancier, en fait. Je trouve aussi, et toujours le contexte derrière, qui est rappelé, le contexte.
Il y a quelque chose de très juste dans ce que vous dites, dans le jeu des générations. C'est qu'effectivement, alors vous avez absolument raison quand vous dites que les parents de James Dean sont des parents qui ont, les pères ont fait la guerre. Et que lui, James Dean, n'a pas fait la guerre. Et qu'il se rebelle, on ne sait pas trop pourquoi. Et vous disiez rebelle sans cause, parce que c'est le titre américain, évidemment, Rebel Without a Cause. Mais c'est très vrai. En fait, il y a l'idée qu'une génération apparaît, l'âge de l'adolescence. C'est même sociologique, hein. L'adolescence est inventée dans les années 50. C'est-à-dire qu'il y a un allongement des études avec aussi la prospérité et de plus en plus de jeunes qui vont faire des études supérieures. Donc on invente la case presque études secondaires. Et donc on invente aussi un moment, un laps de temps où les jeunes ne sont plus des enfants, ils ne sont pas encore des adultes. Donc l'industrie, les industries culturelles vont s'adapter à ça et inventer des choses pour eux. Mais vous avez absolument raison de dire que James Dean se révolte presque à vide. Et d'ailleurs, là, il y a marqué « Running on empty ». Le titre original, c'est « Running à vide ». Et c'est là que le River Phoenix de ce film-là, est vraiment un James Dean. Parce qu'en fait, ses parents avaient une cause, vous l'avez dit. Ils avaient la cause de la guerre du Vietnam contre laquelle ils étaient en désaccord. Sauf que là, il n'y a plus de guerre du Vietnam. Et c'est exactement comme dans les années 80, c'est les années 50. C'est-à-dire que d'ailleurs, les années 80 se revendiquaient des années 50, du calme plat des années 50. Parce que c'est quoi l'invention de l'American Way of Life et de la sitcom ? C'est le désir très fort, mais presque un peu métaphysique de la part de, à la fois des industries culturelles, de la société américaine, des pouvoirs publics et de la société elle-même, du peuple, que l'histoire s'arrête enfin. En fait, la première moitié du XXe siècle avait été tellement sanglante, deux guerres mondiales, un génocide, bon, qui reviendra beaucoup plus vite, enfin, on n'est pas encore parfaitement conscient de ce qui s'est passé, mais des choses très, très dramatiques, des bombes atomiques, des crises économiques dans les années 30 pour la société américaine, qui avait été très grave, hein, ça a traumatisé la société américaine. Il y avait l'idée dans les années 50 que ça y est, on s'arrête, on arrête l'histoire. Vous savez, on a beaucoup parlé de la fin de l'histoire dans les années 90, mais en fait, la fin de l'histoire, elle a eu lieu. C'est les années 50 qui inventent la sitcom et qui disent « Voilà le bonheur, il s'inscrit dans l'éternité et le présent est éternel. L'histoire n'existe plus. On arrête l'histoire. Il n'y a plus rien, c'est bon. En vérité, il y a la guerre froide et en fait, on se protège de d'autres formes de... Voilà, il y a d'autres menaces. Mais l'idée que, dans les années 50, c'est bon, on a le droit d'être heureux. On a le droit de jouir pleinement des fruits de notre prospérité, de la consommation. On arrête l'histoire. Et donc, il n'y a pas de cause, là, de la rébellion. Pourtant, on sent bien qu'il y a un problème. James Dean, il sent bien qu'il y a un problème. Le rock'n'roll sent bien qu'il y a un problème. Il y a un mensonge. Mais les parents de River Phoenix, c'est génial, les années 70. On a des causes. On a la guerre du Vietnam contre laquelle se rebeller. On a un flower power et un pacifisme à ériger contre des massacres qui sont perpétués en Asie du Sud-Est. Et là, dans les années 80, la rébellion de River Phoenix, vous avez absolument raison, n'a pas de cause non plus. Sauf que là où c'est très beau, c'est que le film, finalement, et là aussi, je vous disais, je pense que Sidney Lumet vous dit un petit peu de ce qu'il pense de l'éducation des parents ou de l'éducation en règle générale. Et je pense qu'il vous dit un peu de ce qu'il pense aussi. Il prend parti là quand le père lui dit « va changer le monde en allant à Juilliard ». Sous-entendu, il n'y a pas de meilleure façon de changer le monde dans un monde en paix que de faire de l'art. En fait, c'est en faisant ta musique, en trouvant ta voix à toi, ton moyen d'expression, ce que tu as à nous dire, que tu vas réussir quelque chose. Et puis, bah, mine de rien, qui fait le film? Un réalisateur, quelqu'un qui a fait le choix de l'art, évidemment. De contester dans l'art, de raconter des histoires de contestataires. Donc, je pense qu'il y a ici le film qui dit bah, peut-être qu'il y a des temps pour s'investir dans le militantisme parce qu'il y a des causes, et peut-être qu'il y a des temps de calme où on peut inventer le rock'n'roll et donner voix à des formes culturelles de contestation qui ne sont pas moins importantes et qui ne changent pas moins le monde. Et quelque part, à chaque décennie, sa place à trouver. Et il y a aussi un truc très intéressant dans l'idée qu'en fait... la révolte n'est pas possible parce qu'il n'y a rien contre quoi se révolter, parce que les révoltes sont déjà là dans la famille, dans la maison. Là, il y a l'inversion des rôles. Les ados sont déjà là, ils ont 40 ans et je ne peux pas prendre leur place. Mais il y a l'idée qu'en fait, on peut toujours trouver un moyen de vivre sa rupture. On peut toujours trouver un moyen de se séparer. On peut toujours, même dans l'état le plus paisible du monde, même dans les 30 glorieuses, même dans un moment de boom économique comme les années 80, on peut toujours se révolter d'une manière ou d'une autre. Même si c'est juste par l'art. C'est des choses qu'on... J'insiste là-dessus, en fait, parce que bon, moi, je suis un peu passionné de cinéma américain. Je suis un peu passionné de cinéma américain, et du coup, je me suis beaucoup intéressé à ces évolutions en fonction des décennies et de la société américaine, comment le cinéma se portait en miroir ou en publicité de l'Amérique. Et en fait, vous ne comprenez enfin, vraiment, s'il y a une décennie sur laquelle je vous incite à vous pencher, c'est les années 50. En fait, toute la modernité, mais même contemporaine, même nos rêves de bonheur, hein, sont façonnés par les années 50. Nos rêves de prospérité, de quiétude, de calme, de tranquillité, de confort matériel, d'embourgeoisement bien légitime, hein, je veux dire, ça, on traite toujours quelqu'un d'autre de bourgeois, mais voilà, la tranquillité matérielle, c'est aussi un désir de se mettre voilà, dans le confort. Tout ça est l'invention, est le fruit d'une invention très américaine, qui est la société de consommation des années 50, qui vous dit, mais non, non, mais inutile de désirer le paradis pour plus tard, vous pouvez l'avoir à portée de main, en fait. Désormais, vous avez un lave-vaisselle qui va faire la vaisselle à votre place, vous avez un lave-linge qui va vous empêcher d'aller au lavoir, vous avez ceci, cela, cela. Vous pouvez même arrêter de faire la cuisine, le McDo, ça coûte pas cher. Et en fait, tout ça vient des années 50. Mad Men, exactement. Même si Mad Men, c'est précisément la crise des années 50. C'est les années 60, quand les années 60 vont un peu mettre en crise ce modèle-là. Mais en fait, ils ont quand même réussi les années 50, parce qu'il y a peut-être eu les années 70 et 60, on a tous envie d'une maison, d'un petit coin à soi, de prospérité économique. On a tous envie de jouir des biens matériels ici et maintenant et pas attendre le paradis. En fait, ils ont annulé quoi? C'est un truc fascinant. En fait, la publicité des années 50, elle a inventé quoi? Elle a suspendu la culpabilité. Elle a suspendu la culpabilité liée au plaisir d'acheter. Ça vous paraît très abstrait, mais en fait, il ne faut pas oublier que les parents de James Dean, dans les années 50, eux, ils ont connu les années de vache maigre des années 30. C'est-à-dire que l'idée de l'endettement, c'est absurde pour quelqu'un des années 30. Et donc, il a fallu donner le goût de l'endettement. Et pour donner le goût de l'endettement à la société américaine, qui aboutira à d'autres crises, hein, les subprimes, c'est tout ce que vous voulez, mais pour donner le goût de l'endettement, donc en fait d'acheter à crédit, il fallait suspendre, dans une société quand même assez beaucoup plus religieuse que nous, hein, beaucoup plus puritaine que nous, beaucoup plus baptiste et de culture protestante, il fallait suspendre la culpabilité liée au plaisir d'acheter. Enfin, l'Amérique, c'est quand même... Tout est fondé sur l'idée de la consommation, l'hyperconsommation, et que tout est accessible. Et donc, il fallait suspendre, il fallait offrir l'absolution par l'achat. Et ça, c'est la publicité qui va le faire. publicité. Mais bien sûr que vous avez le droit de jouir du fruit de votre labeur. Les pubs Cadillac, pour les voitures Cadillac, vous savez ce que c'était le slogan ? C'était « Refuseriez-vous à... » Vous voyez un homme avec un chapeau dans une belle Cadillac. « Refuseriez-vous à cet homme qui a travaillé je ne sais pas combien d'heures par semaine le fruit de son labeur ?» Vous avez vu comment ils inversent l'équation de culpabilité ? Bon, on en est lointainement héritier parce que la France a quand même fait culturellement un peu barrage. Mais pourquoi, au sortir de la Deuxième Guerre, pourquoi le plan Marshall ? Pourquoi réinjecter des capitaux ? Pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici dans un multiplex d'inspiration mole ? Pourquoi les sociétés... Repensons ce matin à Atlantique. Hein, pourquoi les formes de modernisation prennent toujours la forme de New York ? Pourquoi les aéroports sont tous les mêmes sur le modèle américain ? Parce qu'il y a une uniformisation des sociétés sur le modèle américain depuis les années 50. C'est les années 50 qui font ça. Donc là, vous avez vraiment un film des années 80 qui nous dit « Bah oui, si on fait un film de rebelles et qu'on est dans les années 80, pacifiés, tout ça, il faut qu'on dialogue avec les années 50. » C'est vraiment, il faut garder en tête que les années 50, c'est énorme pour les Américains, culturellement. Quand je vous disais que la fiction la plus regardée, c'est la sitcom, ça veut dire qu'en fait, c'est un truc inventé dans les années 50. Inventé avec... c'est la publicité de leur bonheur, en fait, la sitcom. C'était toujours la même histoire. C'était toujours une famille idéale, avec des intrigues complètement lamentables, ou enfin vraiment d'un intérêt dramatique très très pauvre, où en fait il n'y avait pas vraiment d'humour. Mais le rire entretenait l'idée qu'on pouvait être heureux en fait là-dedans, que tout le monde était heureux, qu'en fait il n'y avait aucune gravité. Et le but de la sitcom, c'est de commencer quelque part avec un générique. Vous avez toujours la même famille, toujours la même maison. Il se passe un élément, une intrigue qui fragilise cet ordre, et au bout de 20 minutes, on revient à l'ordre initial qui permet de relancer un épisode. Et donc en fait, la structure même de cet épisode, c'est le retour à l'ordre. Le retour à l'ordre est donc une boucle éternelle d'eux-mêmes. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus aucun élément qui vient parasiter une guerre, une contestation, des engagements politiques, rien. Vous pouvez pleinement vivre le bonheur de cette société où le paradis est descendu sur terre. Et donc des films comme ça, même discrètement, sont toujours un petit peu critiques, sont toujours un peu des satires de ça. Là, par exemple, cette séparation, elle est cruelle, quoi. C'est comme le chien, ils les mettent au bord de l'autoroute. Au final, c'est plein d'amour, mais ça reste cruel. C'est tout l'inverse d'une sitcom. Et en même temps, lui, ce qu'il veut, c'est sa sitcom.
Oui, je me posais la question aussi, enfin, j'extrapole peut-être un petit peu, mais cette image du rebelle, elle est incarnée par un bourgeois. Désormais, donc, depuis les années 50, c'est les bourgeois qui se sont emparés de cette figure. Alors qu'avant, dans le cinéma, enfin, je vois avec le cinéma français, Jean Gabin, c'était plutôt des figures populaires, des ouvriers français. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que dans le cinéma, je pose une question en plus, est-ce que dans le cinéma américain d'avant, il y a des figures de rebelles populaires et est-ce qu'il y en aura après ? Ou est-ce que c'est spécifique à la France ou avec des gens comme...
Pour tout, rien me cacher, c'est la première fois qu'on me la pose et en fait, elle est très pertinente parce que évidemment qu'il y a des figures de rebelles ou de hors-la-loi dans le cinéma des années pré-50 américains, mais qui sont toujours liées au genre. Le outlaw du western, le desperado, le gangster hein, qui est déjà là hein, dans les années 30, par exemple Scarface de Howard Hawks est une grande référence populaire du bad boy, mais ça n'est pas le rebelle adolescent. Ça n'est pas un rebelle politisé, ça n'est pas un rebelle contestataire qui a une fonction presque de contestation de l'ordre social. C'est une façon des genres américains en fait vont mettre en scène des rebelles, des outlaws, mais très souvent avec la pas dans Scarface en l'occurrence, mais très souvent avec la tentation presque de prendre leur parti. Par exemple, Jesse James, qui était un hors-la-loi, qui était un bandit, qui faisait des braquages, Jesse James a été une figure héroïque du western d'avant John Ford, d'avant en gros John Wayne. Mais non, sinon, l'invention de la figure populaire du rebelle qui vient d'un sentiment de vide, d'un sentiment d'absurdité lié à cette société qui lui dit quoi faire, et donc de défi de l'autorité, c'est clairement les années 50. Et c'est l'invention aussi, comme je vous le disais, sociologiquement, d'une tranche d'âge qui est l'adolescence. L'adolescence n'existe pas avant les années 50. C'est là que je vous dis quand même que c'est quand même une décennie qui a tout inventé. Hein. L'adolescence n'existe pas avant les années 50. On ne parle pas d'adolescents, mais même en France, hein, on parle de jeunes adultes, on parle d'enfants qui ne sont plus des enfants. Mais l'adolescence, teenagers, c'est une tranche d'âge qu'invente les années 50. Une fois encore, avec le rallongement des études et la prospérité qui se répand un peu à toutes les strates de la société américaine. Mais vous avez raison de citer des personnages de figures populaires dans un autre cinéma qui est celui du cinéma français. C'est Jean Gabin, mais qui n'est pas un adolescent, Jean Gabin. Lino Ventura, c'est un petit peu après quand même. Lino Ventura, c'est la figure du gangster. En fait, Lino Ventura, il prend le témoin de Jean Gabin. Il prend le relais de Jean Gabin. Oui, mais là, les Américains sont arrivés. Quand vous arrivez dans la France des années 70, vous voyez arriver les premiers teen movies. Passe ton bac d'abord, De Piala, De Verre, pourquoi pas. Mais en fait, ils sont plus teen. En fait. De Verre et Depardieu dans Les Valseuses, c'est plus des teens. On a eu du mal à faire du teen movie en France. Hein. Ça a été assez, la pénétration de ce genre a été très limitée. Il y en a, hein. Les Beaux Gosses, il y a plein de teen movies. Mais... Pardon ? La Boom, c'est pas là, c'est les années 80. Mais la grande période teen des années 50-60, début 60, aux États-Unis, n'a pas eu de réalité en France. On avait des figures populaires de bad boy, mais qui était en fait la figure du réalisme français, qui était en fait ce qu'on appelait le réalisme poétique en France, Jean Renoir, et surtout, vous savez, les textes de Prévert. Prévert a écrit beaucoup de scénarios dialogués pour ce Gabin-là et tout. Et c'était en fait la figure populaire, en fait. C'était Arletty, c'était Gabin, c'était les classes populaires. J'ai du mal à comparer ça totalement aux teenagers. Ça, ce qui invente ça, c'est la modernité de Marlon Brando. C'est Marlon Brando qui invente une nouvelle façon de jouer. C'est aussi les préceptes de l'Actor Studio qui commencent à pénétrer à Hollywood. Et c'est James Dean qui arrive avec à peu près le même jeu, le même désir d'incarner des figures de rebelles, mais avec un vrai âge de rebelle qui peut jouer des ados. Et puis derrière, c'est la musique du rock. Derrière, c'est tout un genre qui disparaît totalement aussi, faut le dire. Dans les années de la contre-culture, dans les années du nouvel Hollywood, il n'y a plus de teen movie. Ça revient à la fin des années 70, avec le genre très potache du... comment on appelle ça En gros, c'est le college movie, mais mince, ils ont un titre pour ça. En gros, qui dit le film idiot de lycée. Mince. Bref, en gros, les films, vous savez, qui reviennent avec hamburger film sandwich à la fin des années 70, où on ne filme que des jeunes garçons qui essaient de coucher avec des filles, qui essaient de les surprendre dans les toilettes, tout ça, sous les douches et tout ça. American Pie est descendant de cette potacherie, mais qui revient à la fin des années 70. Mais ça revient par le potache, en fait, par la comédie. Et le teen movie avec ses lettres de noblesse des années 80, c'est vraiment, vous le citiez tout à l'heure, c'est plutôt Breakfast Club, John Hughes. Et ça, Running on Humpty a plutôt un succès populaire. Et puis ça fait de River Phoenix une figure d'adolescent, du retour de l'adolescent. Ouais. Mais non, il n'y a pas d'adolescent avant. Non. Chaplin est un rebelle. Ce n'est pas un adolescent. C'est un pauvre. Bah non, Buster Keaton, c'est tout l'inverse. En fait, Buster Keaton, il cherche toujours le retour à l'ordre. Il ne comprend pas pourquoi le monde est chaotique, Buster Keaton. Pourquoi les trains sont pourquoi les trains lui arrivent dessus, pourquoi il doit les arrêter, pourquoi il y a une tempête alors qu'il est en train de construire sa maison. C'est très drôle, hein, Buster Keaton, c'est l'inverse de Chaplin. Chaplin, il crée le chaos parce qu'il n'a jamais sa place dans les sociétés bourgeoises ou dans les grandes villas. Vous savez, Chaplin, il passe par la porte de derrière, il chope un petit gâteau, puis il déclenche une course-poursuite. Et Buster Keaton, c'est celui qui ne comprend pas pourquoi la tempête déclenchée par Chaplin l'empêche d'être heureux. Donc c'est vraiment deux façons très très différentes d'être burlesque. Et qui sont citées quelque part. Hein. Le canotier, Chaplin. Ah oui, puis je ne vous ai pas montré, mais derrière Chaplin, il y avait James Dean.